Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors, dernier volet de vos chroniques sur la pensée réactionnaire, inspiré par la lecture du tout récent livre de Marc Lilla intitulé « The Shipwrecked Mind on Political Reaction ». Vous nous avez parlé de trois philosophes disparus. Comment les penseurs réactionnaires considèrent-ils notre époque contemporaine ?
Les penseurs réactionnaires sont des exilés de l'histoire. Ils vivent au sein de notre présent comme à l'étranger. En gros, selon Marc Lilla, vous trouvez parmi eux deux grandes familles d'esprits. Vous avez ceux qui déplorent la perte du monde d'hier, un monde qu'ils idéalisent, c'est par exemple le fond de la pensée contre-révolutionnaire catholique. Ses représentants, Donoso Cortés, de Bonald, Barbey d'Orville, n'ont cessé de mener tout au long du XIXe siècle des combats d'arrière-garde. Mais ce peut être aussi tous ces gens pour lesquels il faudrait refermer la parenthèse des 60s et faire revenir le mode de vie des années 50. Et cela nous amène à la deuxième famille, le courant que Lilla appelle le chemin qui n'a pas été pris. Ceux-ci sont à la recherche de la mauvaise bifurcation qui, quelque part dans l'histoire intellectuelle de l'Occident, nous aurait amené au malaise actuel de notre modernité. Et dans cette famille, il faudrait compter Alasdair MacIntyre, philosophe écossais, ancien marxiste converti au catholicisme, qu'Émile Perrault-Saucine, trop tôt disparu, avait tenté récemment de faire connaître au public français.
Et alors, dans la France d'aujourd'hui, justement, qui sont pour Marc Lilla les penseurs réactionnaires ?
Marc Lilla, qui connaît bien la France et écrit souvent sur notre vie intellectuelle dans les colonnes de la New York Review of Books, analyse avec une rare perspicacité les œuvres d'Éric Zemmour et de Michel Houellebecq. Les attentats de 2015, écrit-il, ont rendu acceptable un type de pensée qui avait perdu chez nous droit de cité, la tradition intellectuelle du désespoir culturel, illustrée autrefois par des auteurs tels que Chateaubriand, Joseph de Maistre, Barrès ou Céline. Depuis la guerre, écrit-il, il était, je cite Lilla, il était toléré pour un écrivain français d'être conservateur, mais pas réactionnaire, et c'est interdit à sauter. Les attentats islamistes ont remis sur la table la vieille question « à quelles erreurs devons-nous la situation présente ?» Car selon Lilla, au cours des 25 dernières années, je cite encore, la société française a subi des changements qui ne satisfont personne. Alors ces nouveaux réactionnaires, avec donc Zemmour et Houellebecq en tête, ont remporté d'énormes succès de librairie en 2015. Pourquoi ? Parce qu'un large public, dit-il, s'est reconnu dans leur réaction. Un public qui avait le sentiment que ses angoisses étaient demeurées jusque-là incomprises. Lilla n'est pas tendre pour Zemmour, à qui il trouve du talent, mais qu'il juge trop habile dans sa manière de mêler à sa rhétorique nationaliste des arguments anti-européens, anti-capitalistes et anti-élites qu'on dirait tout droit sortis de tracts d'extrême-gauche. C'est à ses yeux un talentueux démagogue. Houellebecq l'intéresse bien davantage. Il note que « Soumission » n'est pas un roman anti-islam. Cette civilisation est présentée par Houellebecq comme une sorte d'idéal même. En garantissant un ordre familial reposant sur une stricte hiérarchie des fonctions, une harmonie sociale qui proscrit la diversité, facteur de division, et enfin, bien sûr, une religion qui favorise une éducation morale exigeante, surtout un vecteur d'une civilisation bien décidée à assurer sa survie, contrairement à la civilisation européenne autochtone. Car la cible du pessimisme culturel houellebecquien, c'est bien l'Europe. Une Europe qui a fait de l'émancipation de l'individu son unique objectif depuis les Lumières. Un véritable pari sur la liberté. Or, aux yeux du romancier anti-lumière Michel Houellebecq, ce pari est perdu. Les hommes émancipés et libres ne sont pas heureux. Mais son héros ressemble à celui de Mousil dans L'homme sans qualité. Il voit disparaître sans colère une civilisation condamnée. Il trouve son chemin et son confort dans celle qui la remplace et il se convertit à l'islam. Alors le livre « The Shipwrecked Mind » se clôt sur une très belle méditation sur le désir fou de faire revivre un passé disparu intitulé « Le chevalier et le calife ». Le chevalier, c'est Don Quichotte, ce héros tragicomique qui voudrait vivre les victoires, les histoires héroïques qu'il a lues dans les romans de chevalerie. Ce qui lui manque, c'est l'ironie. Ironie qui peut être définie comme la capacité à négocier le fossé entre le réel et l'idéal sans faire violence ni à l'un ni à l'autre, selon Leyla. Il est ridicule, sans doute, mais il n'est pas dangereux. Car il y a, oui, dans l'histoire, des ruptures déconcertantes, des changements imprévisibles et brutaux que n'explique aucune des sciences de la tectonique des temporalités. Après une telle césure historique, certains restent au bord du fossé qui nous sépare désormais de l'autre rive à contempler les lumières qui s'y éteignent. Mais d'autres font le rêve bien plus dangereux d'une apocalypse qui nous rouvrirait les portes du paradis dont ils se croient avoir été injustement chassés. Et c'est dans le monde musulman, écrit Marc Lilla, que cette croyance en un âge d'or perdu mais retrouvable est la plus développée. Des militants s'imaginent qu'il est possible de faire revenir les temps héroïques de l'islam à condition de rompre avec le sécularisme, le matérialisme et de vivre à nouveau comme au temps du prophète. Or, le mythe de l'âge d'or, quand il rencontre celui de l'apocalypse, la terre se met à trembler, écrit-il. Il ne s'agit pas alors seulement de prendre le chemin du temps en sens inverse, mais de renverser tous ceux qui paraissent se trouver sur sa route.